reçoit et on est en train d'installer Pierre-Étienne et Delphine, Delphine et Pierre-Étienne, qui viennent nous parler de la saison 2 de l'amour sous une bonne étoile.
Allô, oui. Moi je m'entends pas non plus.
Alors il faut régler le casque, Mourad, si tu veux bien.
Je suis le bleu, moi.
On est en train de faire les réglages à l'antenne.
Là j'entends, je m'entends.
Et tout le monde t'entend, nous sommes à l'antenne.
Bah, voilà.
Est-ce que ça marche aussi pour toi, Pierre-Étienne ?
J'ai pas l'impression.
Le rouge, ou alors un autre. Alors le noir. Là, et voilà. C'est
peut-être.
Bon. Le noir et le bleu sont avec nous, et le jaune aussi.
Oui, ça y est, on arrive.
Est-ce qu'on commence par un petit teaser ou...
Ou bien.
Qu'est-ce que vous prévoyez ? Qu'est-ce que vous préférez ?
Ah bah, ouais, ça peut être... Ça peut mettre un petit peu dans l'ambiance.
Allons-y.
L'amour sous une bonne étoile.
Saison 2. Les artistes aussi cherchent l'amour. Un podcast documentaire de Delphine et Pierre-Étienne Vilbert.
C'est un métier quand même assez particulier quand même. Enfin, je veux dire, en tant que comédien, on est amené à jouer des choses, mais...
C'est la même chose. Ce qu'aimer, c'est créer aussi sans cesse avec ce qu'on est à ce moment-là, avec l'autre.
Bah, je crois que j'ai toujours réussi à foutre autant la merde dans ma vie amoureuse que dans ma vie artistique.
Lui, il venait souvent au bar. Et moi, je le prenais vraiment pour quelqu'un de... d'illuminé.
Jouer, c'est quand même partir de soi, partir de son histoire, partir de sa vibration. Et donc, du coup, j'avais en tout cas tendance à mélanger les choses.
Je crois que longtemps, et je suis encore un peu dedans, j'attendais que l'autre vienne valider qui j'étais ou vienne, d'une certaine manière, m'adouber, enfin, me donner sa bénédiction, me dire c'est bien ce que tu fais. Il y a un rapport un peu, et en particulier avec les hommes.
Je crois que j'ai saupoudré à égalité de la même complexité ma vie artistique et ma vie amoureuse, puisqu'elle n'était toujours l'une comme l'autre que le miroir de l'une et de l'autre.
Et il arrêtait pas de faire des compliments. Ah, c'était génial votre spectacle, c'était super, qu'est-ce que tu joues bien et tout. Putain, oui, bon bah ça va, j'ai compris.
Surtout qu'après XMVR, vu qu'on fait la fermeture, ça devient des...
Putain, mais franchement, je sais que je t'aurais déjà dit, mais tu déchires.
Effectivement, il y a le chaos. Mais je sais que ce chaos, c'est dynamique et qu'à un moment donné, ça va donner, ou que ça a déjà donné, justement, cette étoile qui danse dont parle Nietzsche.
J'ai un rapport au travail, à la création, je dirais peut-être pas obsessionnel, mais quand même un peu. Je peux pas m'arrêter, quoi. Il y a quelque chose de. J'en ai besoin, quoi. C'est viscéral.
On est là parce qu'on creuse et on n'est pas là pour faire un métier, bien que politiquement, je revendiquerai toute ma vie le fait que c'est un métier, que nous sommes nécessaires à la société, que notre fonction est une fonction essentielle, pour pas avoir à prendre des mots très actuels, à l'équilibre d'une société.
Mais moi, j'ai plus souvent que toi des grosses remises en question de vie. Pourquoi ça va pas ? J'ai l'impression que ça change. Sébastien ! Je le secoue comme ça dans tous les sens. Mais Sébastien, enfin, tu vois pas que ça va pas.
Alors
que bon, tout va bien en fait. C'est juste le temps que je redescende.
Donc ça, c'est la saison 2 de L'amour sous une bonne étoile.
Exactement.
Qui est toute fraîche, qui est sortie cette semaine.
La semaine juste passée, quoi.
Elle est sortie de où, d'ailleurs ça sort pas d'un four, ça sort pas d'un frigo, ça sort pas d'une boîte aux lettres, ça sort d'une table de mixage.
Ouais, ça sort d'un processus de montage, ouais, c'est ça, d'un bon gros reaper, quoi. Ça sort à cet endroit-là pour aller sur cette saison 2 qui est donc sur la question des artistes qui aussi cherchent l'amour. Et effectivement, c'est un travail qu'on a commencé l'année dernière. Et le montage, lui, et le mixage, c'est fini récemment, puisqu'on voulait vraiment l'avoir au début de cette saison.
Eh ben, c'est cool de vous retrouver. On s'était vu la première fois pour Global 404, c'était il y a peut-être 2 ans.
Novembre 2020, oui. Exactement.
Si je me rappelle bien de cette série de podcasts, c'était une fiction en 2007 ou 2009. On était confinés depuis des années et la société, du coup, avait évolué. On avait le droit, en fonction de nos bonnes actions, un petit peu de liberté.
Ah, et c'était en 2029, c'est ça, avec un contrôle des populations avec des drones qui viennent vérifier vos identités pour pouvoir sortir et circuler, oui.
Et si on se comporte bien, on a le droit d'un petit quart d'heure de déconfinement ou,
exactement.
Ou un week-end, si on est vraiment un citoyen modèle.
Exactement. Une dystopie écrite en 2020, un peu trop d'actualité.
Et qui avait été diffusée aussi, peut-être, enfin en tout cas qui avait été programmée, je crois que c'était à la Tricoterie.
Exactement.
Mais peut-être que ça n'avait pas pu se faire à la date initiale.
Exactement, ça n'avait pas pu sortir à la date du début novembre, puisqu'il y avait justement le deuxième confinement. Et donc c'est sorti, on l'a diffusé à la Tricoterie il y a quelques mois en fait.
J'avais vu passer ça. Donc là on est dans un autre registre, on parle d'amour. Et dans la saison 1, donc on vous avait aussi reçu et on en avait parlé. Je me rappelle qu'à cette époque-là, on était plusieurs autour de la table à être célibataires à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et du coup, d'être...
C'est plus le cas maintenant ?
Non.
Ah, bah, félicitations.
Merci. Mais du coup, à cette époque-là, on était, si je me rappelle bien, un peu réticents du fait d'être célibataire en disant, de toute façon, l'amour... C'est trop compliqué.
Et puis la thématique était la complémentarité, donc en plus c'était vraiment l'idée de couple pour qui ça marche à fond, quoi. Donc, mais aussi pour saisir des trucs, des tips qu'ils pourraient avoir, pourquoi ça marche si bien pour ces trois couples qu'on avait interrogés.
Ils avaient 20 ans, une vingtaine d'années le premier, une quarantaine d'années le deuxième, et puis une soixantaine d'années le troisième.
80 le dernier.
Ah voilà, donc des générations distinctes et des sentiments similaires.
Oui, exactement.
Donc là on parle des artistes. Et j'ai écouté hier le premier podcast, on l'écoutera sans doute tout à l'heure, mais peut-être pas en entier, pour donner envie.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vous a amené vers ce thème ?
Bah, peut-être déjà le fait qu'on soit nous-mêmes artistes d'une part, puisque en tant qu'auteur, créateur, producteur, on fait toutes sortes d'activités. Et effectivement, la question de l'amour, ben, elle est aussi existante dans cette profession-là. Donc il y avait un double désir qui était d'une part le fait de s'interroger sur comment on peut croire en l'amour quand on est artiste, sachant que pour la petite anecdote, en mythologie, ben, la déesse de l'amour et la déesse de l'art, c'est la même, c'est Vénus, Aphrodite.
Ah oui,
oui, voilà. Donc on est souvent parti de cette réflexion-là, de se dire, tiens, pourquoi dans les mythologies ils ont associé les deux ? Et donc pour aller voir les artistes, c'était un bon point d'entrée pour se dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et alors d'autre part, l'autre deuxième aspect, c'était qu'on avait aussi envie de faire une petite découverte pour ceux qui ne sont pas artistes, de se rendre compte de cette vie qui peut leur apparaître un petit peu romancée, différente. Et les artistes, si on est font un truc bizarre, et ben pas forcément, de se rendre compte qu'il y a quand même une proximité, qu'on soit artiste ou pas, on se pose les mêmes problèmes, on peut avoir des désirs similaires. Et donc c'était un peu déjà le point d'entrée là-dedans.
Oui, bien. Et vous avez rencontré combien de personnes, du coup ?
On a rencontré le nombre de personnes qui sont interrogées, puisqu'en fait, c'est à chaque fois un principe d'invitation. On a un feeling et on propose. Il y a certains qui ont décliné l'invitation, pas par pudeur, même quelques-uns, surtout des couples. Ceux qui sont célibataires ont plus facilement accepté de parler.
Okay.
Donc c'est intéressant de voir que c'est déjà représentatif de quelque chose. On a eu plutôt trois personnes en enquête amoureuse et un couple d'artistes qui ont bien voulu se livrer. Mais on a contacté d'autres, et puis y a quand même de la pudeur, même si l'artiste se livre, se dévoile, mais parler de son intimité, c'est autre chose.
Oui. Quand on est sur scène en train d'incarner un personnage qui a des émotions et une histoire, on va chercher un peu en soi pour y parvenir, mais on est soumis à un cadre, un texte, une mise en scène.
Exactement, on est même protégé, ouais.
Alors que quand on va chercher au fond de soi, là, il n'y a pas vraiment de filet, je dirais.
Exactement. Il y a une sorte d'anecdote pour raconter ça, que moi-même j'ai déjà vécu, c'est quand on est sur une scène de spectacle, et qu'on se retrouve confronté au fameux trou. Le trou de texte, quoi.
Ouais.
Et ben, on a vraiment cette sensation vertigineuse d'être nu. Alors que, en fait, au moment où on a le trou de texte, on se dit, je ne sais plus quels sont les mots exacts, les mots qui me protégeaient. Ben, je vais les improviser. N'importe qui peut improviser si on a répété des semaines et des semaines. Eh bien, je vous assure que même si vous improviser et que personne en public ne peut se rendre compte que vous improvisez, vous vous sentez à poil et complètement nul parce que c'est vos mots et c'est pas ceux d'un auteur que vous avez cherché à apporter et à montrer.
Oui, c'est ça. La carapace, la protection, l'armure, le bouclier, tout ça, ça s'envole et puis du coup, on est face au public avec. Faut pas rester trop longtemps dans ce son.
Non, effectivement. Et pourtant, j'ai déjà connu un acteur renommé qui lui a connu un trou abyssal, c'est-à-dire que vraiment, c'est un acteur qui à ce moment-là avait déjà 65 ans facile, et qui se retrouve avec un vide intersidéral et qui marque le blanc, et puis qui a un moment qui s'excuse auprès du public et dit « Excusez-moi, il va falloir que je cherche mon texte ». Et il part en loge chercher son texte, et quand il revient, tout le monde l'applaudit, quoi, et ça reprend. Donc c'est aussi ça, le spectacle vivant, c'est cette fragilité qui peut être assumée. Et pourtant l'acteur était vraiment, enfin c'est quelqu'un de renom et exceptionnel, mais voilà, même au meilleur ça peut arriver.
Ben dis donc, vous avez proposé aussi de la musique, est-ce qu'on en met maintenant ou est-ce que...
Comme tu veux, il y a de la matière, donc il y a quatre propositions différentes, t'es pas obligé de tout mettre, c'est comme tu veux.
Alors il y a... UB40, I got you baby. Bah on peut essayer ça.
Yeah. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. Cause you got me. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Got you, babe, auditoris.
Il est 34h98.
Merci pour cette sélection musicale. Et Delphine, on t'a pas beaucoup entendu pour l'instant.
Mais non, mais il a fait que de parler.
Bah oui.
Non mais là, je vais vous raconter des trucs.
Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous raconter?
Bah peut-être tout à l'heure, on parlait de l'intimité, que c'est pas facile de parler de l'intimité. Et il y a vraiment, on découvre vraiment en créant ce podcast qu'il y a quelque chose qui se joue dans les interviews une fois que les artistes ont accepté de nous rencontrer. Après, il faut créer le contexte du rendez-vous, de l'interview. Et ce moment-là, il est hyper important. Donc Pierre-Étienne, il est plus à la technique. Et moi, je suis plus justement dans l'échange avec la personne. Et en fait, on a une série de questions qu'on a préparées avant. Donc on a des thèmes, tout est bien cadré et tout. Mais en fait, à un moment donné, il faut faire sauter le cadre. Il faut réussir juste à rencontrer la personne. Malgré le micro, malgré le fait qu'on soit enregistré, il faut réussir à vraiment se parler, en fait. Et quand on décide de parler d'amour, de relations amoureuses, des fois c'est douloureux, des fois ça réveille des choses. Et en même temps, c'est ça ce dont on a envie d'exprimer, quoi. Donc, c'est tout l'enjeu. Il y a vraiment quelque chose, pour nous, du défi. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime vraiment, quoi, aussi, de se mettre... nous, on essaye, dans le début de la rencontre avec l'artiste, aussi de se mettre à nu, aussi, le fait qu'on soit un couple, tous les deux. Voilà, de raconter un peu, soit une anecdote sur nous, soit quelque chose, de mettre à l'aise en tout cas la personne, et pour qu'elle aussi elle joue le jeu après, parce que c'est pas forcément des gens qu'on connaît, quoi. Donc des fois ils viennent chez nous, alors on va chez eux, mais voilà, on sait jamais ce qui va ressortir de ça. Après il y a le travail de montage, là c'est Pierre-Étienne plus qui est sur ce poste, mais c'est vrai, quoi, il y a deux enjeux différents, quoi, l'interview et c'est un... Ouais, c'est souvent assez fort, on en ressort, c'est une heure hyper intense, parce qu'on a l'impression d'un seul coup qu'on a un cadeau énorme de la personne qui, pendant une heure, on a parlé d'un sujet hyper important de sa vie et qu'elle nous a offert plein de choses. Et on se dit, waouh, ok, c'est très précieux ça, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Comment est-ce que ça va intéresser les autres? Comment on va faire? On va révéler justement le mieux de cette parole. Et ouais, c'est... Enfin, nous, on adore ça. On veut jamais s'arrêter.
Et une question, en fait. Comment vous avez choisi de faire le casting de votre différents intervenants dans le podcast?
Ben, en fait, c'est à chaque fois soit des connaissances, soit des connaissances de connaissances. Et puis, c'est encore une fois des principes d'invitation. C'est-à-dire qu'on leur propose, on leur dit, voilà, on a ce sujet-là et on a pensé que toi, tu as l'air de te poser vraiment cette question-là sur l'amour, c'est important pour toi, même si t'es seul, mais en revanche, que t'aimerais bien ne pas être seul et t'aimerais trouver comment en faire. Bon, bah, c'est pas grave, si là, ce coup-ci, t'es seul, si tu veux en parler, viens. Et puis, on voulait aussi des couples d'artistes. Et on avait aussi envisagé d'avoir même un couple qui soit avec une personne artiste et une autre qui n'est pas artiste. Bon, on n'a pas eu l'occasion, on avait une piste, mais il y a eu trop de pudeur, et donc...
Et si on pouvait, on interrogerait... 50 personnes, quoi. Le problème, c'est qu'on a la contrainte aussi de... Là, déjà, on a 4 épisodes de 20 minutes. C'est énorme, en fait, en termes de travail après de montage. Et donc, on doit se limiter. Et donc, on s'était dit, on va interroger plus de monde. Mais alors, ça veut dire le temps de parole de la personne est réduit. Mmh. Et donc, on s'est dit, non, en fait, on veut peut-être mieux qu'on reste. Du coup, là, on en a 5. C'est déjà, en fait, énorme en termes de contenu. Et on préfère qu'on ait plus un suivi. Du coup, il y a comme un récit. Petit à petit, on découvre vraiment l'histoire de la personne, son métier. Ouais, ça, c'est un choix, quoi. Après, effectivement, on peut le remettre en question. Et puis, même nous, ça se trouve, un jour, on remettra en question la manière dont on fait ça. Mais pour le moment, c'est ce qu'on choisit, quoi. C'est comme ça, quoi.
Oui, parce qu'on pourrait effectivement en avoir 15. Mais pour que ça tienne dans un format qui ne soit pas indéfini, on survolerait un petit peu, selon moi. On aurait des échantillons un peu sensationnalistes, mais on n'aurait pas l'histoire de qui est confiée de quelqu'un. Parce qu'il faut du temps, en fait. C'est aussi le concept qu'on a voulu dès la saison 1, c'est que on n'entend pas nos questions. On disparaît par le montage, il n'y a que les réponses, et les réponses s'entrecroisent. Donc c'est comme si ces personnes qui ne sont pas dans la même pièce au moment T, se répondent des fois, ou du moins expriment des choses qui vont résonner avec celles des autres. Et voilà, et ça crée, je trouve, un objet qui est entre le documentaire et un peu l'œuvre d'art, modestement, mais quelque chose de poétique qui peut se dégager de ça et aller au-delà même de ce qui est dit. Il y a une suggestion qui peut apparaître.
Moi, j'ai envie d'écouter maintenant ce premier épisode, peut-être.
Bah oui, vas-y.
Donc les artistes aussi cherchent l'amour.
Saison 2.
Saison 2.
De l'amour sous une bonne étoile.
Ce Radio Panique, on écoute ça.
L'amour sous une bonne étoile.
Saison 2. Les artistes aussi cherchent l'amour. Un podcast documentaire de Delphine et Pierre-Étienne Vilbert.
Partie 1. Ça a pris presque toute la place à la fiction amoureuse. Elle a toujours fait partie de mon art, en fait. Et que ce soit dans mon désir d'écrire de la poésie, d'écrire des chansons, mon choix des projets dans lesquels j'ai pu jouer en tant que comédien, c'est toujours ça quand même qui m'a attiré. En tout cas, le sujet de l'amour.
Bah, l'art, il me sauve la vie tout le temps. Et l'amour aussi. L'amour amitié, l'amour... L'amour amoureux, enfin, tous les types d'amour. En fait, on a besoin de l'un et l'autre, hein, mais terriblement. Je crois que c'est peut-être ça aussi le point commun. C'est que c'est des putains d'essentiels, quoi. On peut pas s'en passer, ni de l'un ni de l'autre.
Alors, je crois que mon rapport à l'art, il est intimement lié à la vie. Que je suis incapable de dissocier toute forme d'engagement artistique d'un engagement dans ma vie.
Ça veut dire quoi, concilier ?
Faire que les deux vivent harmonieusement, on va dire.
Mmh. Oui, c'est ça, l'équilibre. Ouais, faut parler agenda, là, du coup.
Les amours, moi, c'est toujours associé quand même à des amours à sens unique, des amours impossibles. Et du coup, j'ai la sensation que tout de suite, l'art est venu m'aider à compenser ma situation de petit garçon, d'adolescent, d'homme ou d'artiste démuni amoureusement. Et puis après, c'est vrai que les textes que j'ai pu rencontrer, les pièces dans lesquelles j'ai pu jouer aussi, l'écriture, les auteurs, etc. Heureusement, quelque part, que je les ai rencontrés. Ça m'a permis de me poser des questions, de me repositionner par rapport à mon rapport à l'amour, à mon rapport à moi. Chaque représentation, parfois, était même une tentative comme ça de comprendre ce qu'était l'amour pour moi. Il y a des pièces comme ça qui m'ont marqué, comme par exemple Le Banquet de Platon, justement, qui est une pièce qui questionne l'amour, puisque voilà, c'est Socrate comme ça qui est invité à une fête où chacun va prendre la parole pour se questionner sur ce qu'est l'amour. Et je me souviens avoir été quand même assez un peu déplacé comme ça pendant le travail de cette pièce. Je jouais Aristophane. Je n'avais pas envie de savoir si j'étais d'accord ou pas avec ce qu'il disait. Mais je le défendais complètement, parce qu'à partir du moment où moi je joue la chose, j'ai envie de le défendre complètement. Mais ce qui m'avait aussi troublé, c'était justement le mélange de fiction comme ça et de mon travail de comédien. C'est-à-dire que il fallait jouer le trouble avec les autres comédiens, il fallait jouer certaines choses qui moi parfois m'ont emmené un peu au-delà de la fiction, quoi. Donc c'est-à-dire que j'avais par exemple à un moment donné à jouer un baiser avec un de mes partenaires. Et tout s'est mélangé, c'est-à-dire que j'ai projeté sur l'autre quelque chose qui était complètement irréel, mais qui a fait qu'à un moment donné, ça a dépassé tout, quoi. Donc j'ai été pris comme ça par un sentiment, que je mettrai entre guillemets amoureux, pour un de mes partenaires. Et puis alors après, bon, après avec le temps, on se rend compte que ce que j'ai projeté sur l'autre, évidemment, n'existait pas. Enfin, je veux dire, je pense que j'étais plus amoureux de ce qui se racontait et de ce qui était projeté, plus que de la personne en elle-même, puisque de toute façon, le comédien qui était en face de moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'était bien la preuve que j'étais pris par une fiction. Et puis, j'avais sûrement envie de me laisser glisser par la vibration que je ressentais en disant les mots et en jouant ces situations qui m'étaient proposées, comme le trouble, l'attirance, l'ivresse, le plaisir d'être avec l'autre, puis ce baiser, alors qu'il était furtif, assez court, heureusement d'ailleurs, parce que je sais pas jusqu'où je serais allé, mais en tout cas ça m'a emmené comme ça à un endroit de fiction, mais qui se mélangeait comme ça avec ma réalité, quoi. J'étais un peu perdu.
Moi, j'ai l'impression que toutes les histoires que j'ai vécues, elles sont inscrites en moi, elles font qui je suis aussi, et elles sont vraiment tellement liées aussi à ce que je crée, quoi. Du coup, c'est tout ça vit ensemble et se mélange, et s'inspirent mutuellement. Et là, par exemple, j'écris de la poésie et tout me sert d'inspiration. Enfin, tout est... Je suis tout le temps, d'une certaine manière, à l'affût et en même temps, je suis connectée, quoi. Je fais attention à tout ce qui se passe à l'intérieur et j'observe et ça m'aide énormément de pouvoir mettre des mots et de pouvoir... Mais pas que mettre des mots aussi, pouvoir justement prendre un tout petit peu de distance par rapport à certains états. Pour le moment, c'est une période très difficile pour moi et franchement, j'en bave, quoi. Mais il y a des moments vraiment où j'ai l'impression d'être dans le vide, d'être dans un énorme vertige, de plus avoir de repères. Et en même temps, des moments aussi de grande joie, d'excitation, de cet inconnu. J'ai l'impression d'avoir tous les sens qui se sont réveillés aussi, d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai que l'écriture, ça permet de prendre un tout petit peu de distance et de transformer aussi éventuellement, d'amener, parce qu'on se dépatouille avec tout ce magma, tout ce bordel à l'intérieur, et tout d'un coup de pouvoir juste faire oup, et d'être de nouveau maître d'une certaine manière. C'est très instinctif et ça me dépasse un peu. Et il y a quelque chose de. Oui, c'est pas rationnel, la poésie, c'est pas rationnel. Enfin, là, en général, pour moi, si c'est rationnel, c'est chiant. Et on crée quelque chose avec, par exemple, cette tristesse ou cette colère ou cette incompréhension. On amène ça, on crée une image poétique, on fait des liens qu'on comprend pas forcément soi-même, hein, mais on s'en fout. Et ça crée, et ça emmène le réel vers autre chose. Et ça, c'est cette porte ouverte là. Moi, je trouve que c'est, moi, c'est pour ça que je vis, quoi. Enfin, vraiment. Sinon, j'aime pas.
Je crois que j'ai toujours réussi à foutre autant la merde dans ma vie amoureuse que dans ma vie artistique. Je crois que j'ai saupoudré à égalité, de la même complexité, ma vie artistique et ma vie amoureuse, puisqu'elles n'étaient toujours l'une comme l'autre que le miroir de l'une et de l'autre, et que je me suis toujours évertué à remettre autant de merde d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire à niquer des situations qui auraient pu être très simples en les complexifiant, en ajoutant des zones de conflit, comme si l'équilibre n'allait produire que de la merde, et que seul le déséquilibre et les solutions qu'on déploie pour essayer de retrouver l'équilibre ne pouvaient être intéressants. Or, cette forme de paradoxe insoluble dans lequel on ne sort pas. Donc je pense que s'il y a un point commun, c'est que je ne me suis jamais senti absolument juste à aucun endroit, ni dans mon entreprise artistique, ni dans ma relation amoureuse, sinon a posteriori dans l'autocritique et la réflexion que tous ces échecs ont produit, qui peut-être me préserveront, m'ont préservé par la suite de reproduire ces mêmes échecs, mais toujours d'autres sont survenus pour supplanter les premiers. Peut-être que j'ai gagné quelques parties, mais en tout cas je crois que j'ai toujours été juste, c'est-à-dire que je n'ai jamais menti à aucun des endroits. J'ai été d'une grande honnêteté, ce qui n'a pas eu pour effet de produire de la réussite ou forcément quelque chose qui marche.
Il y avait un festival alternatif, moi je sortais tout juste de l'école. On venait de créer une compagnie et on s'est dit, allez, on va jouer notre spectacle, on va faire un test, on va voir comment il est reçu. Voilà, on s'inscrit à ce festival, on vient jouer. Et en fait, Sébastien s'occupait de la scénographie des lieux et du bricolage et plein d'autres trucs.
Plein de trucs, ouais, du bricolage, des cabarets.
Monsieur on entend mettre un clou.
Putain, il est sérieux, quoi. Mettre un clou, franchement.
Et donc... À ce moment-là, moi, je t'avais pas trop rencontré à ce moment-là.
Bon, non, ça c'était pas.
On se croisait, mais on s'était pas vraiment vu.
Non.
Et puis j'ai travaillé dans un bar avec un des créateurs du festival.
Mon ami. Denis, si tu m'entends, t'es mon ami.
Denis, notre ami. Et du coup, j'ai travaillé avec Denis et lui il venait souvent au bar. Et moi, je le prenais vraiment pour quelqu'un de d'illuminé.
Bonjour.
Et il arrêtait pas de faire des compliments. Ah, c'était génial votre spectacle, c'était super. Qu'est-ce que tu joues bien et tout. Putain, oui, ça va, j'ai compris.
Surtout qu'après XMVR, vu qu'on fait la fermeture, ça devient des. Putain, mais franchement, je sais que je t'avais déjà dit, mais tu déchires. Et c'était même pas coup de cœur, vraiment, il y avait pas question de... Je venais au bar, j'étais trop content de les retrouver, quoi.
Purement sympathique.
Et on faisait la fermeture, on allait même danser et tout après, c'était rigolo, quoi.
Denis écrivait à ce moment-là, il écrivait des poèmes. Et donc, je lui avais proposé de mettre en scène. Il est venu chez moi, puis on a retravaillé les textes, et puis on a commencé à aller un peu au plateau, mais le plateau, c'était ma cuisine. Et donc, du coup, on s'est dit, mais c'est ça, en fait, on va faire un spectacle en appartement. Et par contre, on aurait peut-être besoin de quelqu'un qui puisse bricoler, qui puisse en même temps faire un peu de lumière et qui pourrait jouer de la musique. Ah, mais je connais Sébastien, tu vois ? Ah ouais, Sébastien. Mm-hmm. Ouais, il serait trop bien, il pourrait faire. Ouais, ok, allons-y. Et donc, il est venu et puis on s'est rencontrés.
Non, c'était pas toujours pas là. Moi, je suis vraiment venu te donner un coup de main.
Bah si, t'es venu sur plusieurs répétitions.
Ouais, mais au début, c'était... ça démarre de Seb en train de fixer des spots au plafond, avec les gros parts par 64, enfin, les gros machins de théâtre dans la cuisine, quoi. Donc, on a transformé toute la cuisine en sac de théâtre, quoi. Avec des rideaux, des effets de lumière, j'ai mis une console pour gérer le son.
Ah, c'était super beau.
Et
hein.
C'était beau, on a fait un beau taf. Et voilà. Et alors, petit à petit, il me voit comme ça, en train de fixer un truc sur une échelle, et je les vois me regarder. Et ils me disent, mais en fait, Seb, les changements et tout ça, ce serait cool que tu les fasses en live, en fait. Que tu sois le régisseur, mais sur le plateau, quoi. Et je dis, bon, ben, ok, en fait, pourquoi pas. Et du coup, ils m'ont intégré là-dedans, et du coup, je me suis retrouvé à être mis en scène avec Denis.
Sébastien n'a pas de formation d'acteur, mais il a un potentiel comique incroyable.
Oui, merci, c'est gentil de le souligner. Et donc, je me retrouve sur scène, quoi. Et là, ça bosse. Denis, vu que lui, évidemment, a énormément de choses à dire, ben lui, il est vanné, il est fait à la fin de journée. Mais moi, ça va, vu que j'ai des petits boutons, des trucs à faire, faire un peu de musique, tout ça, ben, j'ai envie de boire des coups, quoi. J'ai envie de... Normal, quoi. Fin de journée, on boit une petite bière. Et on reste boire une petite bière, Denis s'en va, et alors c'est là, petit à petit, ben, je redécouvre un peu Zoé, quoi. Je me dis, ah tiens... c'est pas juste une meuf qui déchire, c'est une meuf qui déchire, quoi, tu vois. Elle déchire, elle est trop cool, cette meuf. Du coup, on se marre bien et tout. Mais pour moi, il y a encore rien, on va dire, à ce moment-là. C'est juste que c'est une super pote et amie en devenir. C'est ce que je me disais. C'est ce que je voulais me raconter, peut-être, je sais pas.
Voilà, je coupe maintenant. On a écouté plus de la moitié du premier épisode. Moi, je l'ai déjà écouté hier, donc j'ai déjà apprécié ça. Je l'ai réécouté avec vous ce matin. Vous, ça doit vous faire bizarre, peut-être ça fait longtemps que vous l'avez terminé, cet épisode et...
Pas tant que ça, finalement. En fait, c'est assez frais. Disons que quand on fait les interviews, il y a un temps avant de dérusher et de pouvoir en faire d'autres. Et puis après... Entre le dérochage et le montage, ça reste assez frais dans notre tête. Donc là, pour l'instant, on n'est pas au stade où on se lasse du tout de l'entendre. Et c'est chouette de pouvoir même se souvenir de ces moments de confidence qui sont très beaux, quoi.
Je sais plus si quelle est la personne qui parle de dit qu'il a jamais il a foutu autant la merde dans ses relations.
Oui, c'est Vincent.
Sentimental que dans ses expériences artistiques, mais en soulignant qu'il reste sincère,
ouais,
et que c'est pas forcément la recette du succès. Donc ça c'est contradictoire et c'est beau.
Oui, tout à fait. C'est aussi cette révélation qui est touchante, c'est que ben, quand tu viens avec ton micro interviewer des personnes pour qu'ils te livrent un peu d'eux-mêmes, eux-mêmes, ils sont pris un peu au jeu de ça et ils sont souvent très étonnés de là où ça les emmène. C'est quand même une confidence sur le canapé, quand même, donc il y a ce phénomène-là. Et il y a quelque chose qui est vraiment sans filet, on y va, on se livre, et ça, c'est quelque chose dont on est très content, c'est d'arriver à créer ce climat de confiance. Pour aller vraiment loin. Et ça les impacte. Hein. Je veux dire, quand on sort de ces rencontres, nous, on est touchés, eux, ils sont touchés. Et on repart avec un peu de soleil, quoi, chacun de notre côté.
Oui, ça se sent. Hein. On entend les sourires ou les rires, les petites réactions réflexes. C'est pas de la communication non verbale, parce que sinon on la percevrait pas sur un podcast, mais c'est des choses qu'on contrôle pas.
Oui, entre le couple en l'occurrence, il y a une connivence entre ces deux-là, qui est Sébastien et Zoé, qui est assez incroyable. Et ils ont un potentiel comique à eux deux, et en même temps très très touchant, donc c'était vraiment les meilleurs candidats qu'on pouvait avoir.
Où est-ce que vous avez trouvé l'illustration, la photo qui est un soleil du coup, sous un ciel, on voit le sol.
C'est une photo que j'ai prise. En Corse, c'est une ascension vers un lac. Okay. Donc il y avait symboliquement quelque chose qui me paraissait intéressant, c'est-à-dire que l'amour sous une bonne étoile, va falloir grimper quand même, mais ça vaut le coup. Mais il va falloir grimper. Donc c'est pour ça que cette photo de cette montée un peu abrupte, et avec le soleil qui te regarde en disant vas-y, si tu veux m'attraper.
C'est par ici.
sur un territoire qui est la Corse, qui est l'île de beauté, et la beauté est une valeur forte en amour. Je parle pas que de la beauté physique, hein, de faire des belles choses, quoi, amener des belles choses dans sa vie, quoi.
Amener du beau dans le monde, ouais.
Mm. C'était quelle région en Corse?
Si ma mémoire est bonne, c'est le lac de Mello. C'est donc vraiment vers le centre de la Corse. Donc c'est vraiment les parties les plus montagneuses. Mais voilà, donc c'est une photo que j'ai prise.
Je propose Jean-Louis Aubert.
Avec plaisir.
On aime comme on a été aimé.
On n'invente pas un sentiment. Les baisers donnent l'alphabet. L'amour nous griffe. Ouvre ses plaies, l'amour nous soigne, l'amour nous fait, on aime comme on a été aimé. C'est cela qui nous fait courir, de reproduire et faire grandir ce qui nous a donné, sans jamais pouvoir en parler, on aime comme on a été aimé. C'est dans les mains de nos parents, c'est dans le cœur de nos amants. Regard aimé, regard aimant. C'est le plus clair de notre temps. Obscur de nos tourments, on n'apprend pas un sentiment, même si on veut faire autrement. On aime comme on a été aimé. On dit les chiens ne font pas des chats, et que l'on est qu'on connaît, qu'on désire ce qu'on ne connaît pas, un autre chien, un autre chat, on aime comme on a été aimé. Toutes ces secondes de tendresse dérobées à l'emporte. Les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse, on aime comme on a été aimé.
ça contraste avec cette ambiance un peu morose entre les guerres qui se préparent ou qui s'annulent, et puis le contexte sanitaire qui, maintenant, depuis 2 ans, nous fatigue. C'est bien cette petite cette fraîcheur, et puis se rappeler qu'il y a aussi ces sentiments-là. Merci Jean-Louis Aubert, on aime comme on a été aimé. Je connaissais pas cette chanson.
C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. C'est on a vraiment besoin de créer pour que les gens continuent à croire en l'amour, que qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles. On a vraiment besoin de ouais, c'est la positive attitude quoi. On a besoin de sourire pour sentir la joie en soi quoi. C'est aussi comme ça que ça commence quoi, le bonheur. Donc
Oui, et puis c'est même dans cette idée-là, pour nous le remède, le vrai remède, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Que ce soit quand on est célibataire, de se dire « Ah merde, je suis célibataire, j'y arrive vraiment pas, je me galère. » Et ben en fait, avoir d'autres témoignages de gens qui sont passés par là, qui disent « Non, bon bah là, j'étais
ou
seul. »
Ou que ce soit en couple.
Oui.
Je suis en couple et je me galère.
Ouais, tout à fait.
Il y a des jours où c'est pas facile.
Dans les deux cas, le témoignage, il permet de se dire, ah, bah, tiens, lui, elle y arrive. Ah, par quoi elle est passée? Ah, d'accord. Bon, bah, ça me donne du baume au cœur. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Et c'est parce qu'on y croit que ça peut aussi exister. Et nous, c'est parce que nous, on l'a expérimenté, aussi dans notre relation. On vient de loin. Mais voilà. Et en l'occurrence, nous, dans l'année passée, on s'est mariés. Donc, tu vois. Entre temps, on est.
Waouh!
Eh ouais.
Félicitations.
Merci. Félicitations.
Et cette, mais on s'est pas marié de manière ordinaire. On a vraiment voulu créer. On s'est pas marié ni dans une église ni dans un. Enfin, on s'est marié civilement quand même, mais on a vraiment créé une cérémonie qu'on a inventée.
Ouais.
On a choisi un endroit en nature. On voulait vraiment que ce soit proche de la nature. Et on a vraiment créer de A à Z le rituel de l'échange des alliances, de l'échange des consentements. On est vraiment allé le chercher en nous, quoi. Et ça appartient vraiment à notre créativité, à tous les deux, quoi. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour le futur, quoi. C'est qu'il y ait de plus en plus de couples qui se marient comme ça, qui inventent leur mariage. Il y a autant de manières de se marier qu'il y a de couples sur Terre, je crois. Et cette chanson de Jean-Louis Aubert qu'on a écoutée, elle me fait penser aussi au fait que si on fait ce podcast, c'est aussi que on l'a ressenti quand on s'est marié. On n'existe que à travers aussi, grâce beaucoup aux relations, aux autres, en fait, à nos parents, à nos familles, à nos amis. Et c'est le lien à l'autre, en fait, c'est l'amour de l'autre, l'amour qu'on reçoit de l'autre qui qui donne du sens à la vie, donc ouais, moi c'est pour ça que j'adore cette chanson.
Radio Panique 105.4, façon des limites.
Le jingle faisait un écho avec ce qu'on discutait. 105.4, façon de l'aimer. Eh ben, est-ce que je mettrai encore une petite musique? Il y avait TV on the radio, Will Go, Will Do.
Oui, c'est un morceau, je pense, peu connu, et c'est assez intéressant parce qu'il y a quelque chose dans ce morceau sur justement la foi dans une relation qui peut advenir, même si tout apparaît contraire. Il y a quelque chose que je trouve très fort à ce niveau-là. Quelque chose qui approche, qui va se réaliser.
On écoute alors.
Words will break me from this rule. understand. A heart doesn't play by rules, and love has its own demands. But I'll be there to take care of you if ever you should decide that you don't wanna waste your life in the middle of a lovesick lullaby. But anytime I do, my love. The words will break me from this room. Anytime will do, my love. Anytime will do, the choicest words will take me back to you.
Sur Radio Panique, il est 8h48, nous sommes le jeudi 17 février 2022. Nous sommes avec Delphine et Pierre-Étienne et Mourad et moi-même Jean-Philippe JP à l'antenne. En train de découvrir la saison 2, vous avez des projets pour la suite ?
Oui, on a une saison 3 qui est quelque part dans les bacs des dossiers informatiques. On a déjà tout qui est prêt au niveau des
rushs.
Ouais, des interviews. Vous s'attaquez au montage. Et là, la thématique est différente, toujours avec l'amour, bien sûr. La thématique, c'est s'aimer et accueillir un enfant. Avec un point qui est vraiment sur comment on peut préserver la relation amoureuse, ou comment la relation amoureuse fonctionne une fois qu'il y a un enfant, et bien pourquoi on veut avoir un enfant. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Parce que souvent, on voit un automatisme. Et nous, on aime bien questionner ça. On vient picoter un peu ça. Donc on a trois couples différents, aussi avec des âges parfois différents et des parcours différents. Et on a même un couple plus âgé qui, lui, a des grands enfants qui sont partis, qui ont plus de 40 ans, et qui raconte aussi ce que ça a fait dans sa propre vie, ce que ça leur a envoyé d'avoir ces enfants-là qui, devenus adultes, ont changé des choses dans leur vie, quoi, de manière drastique.
Voilà. L'idée, c'est de pas forcément donner envie aux gens de faire des enfants. Parce que des fois même, j'ai l'impression que les gens, ils vont trop vite, ils font trop vite un enfant, puis après, ils sont « Ah mince, oui, c'est vrai que c'est pas rien, en fait, il y a un petit être dans notre vie, là, où... et ça chamboule le couple, et les gens, le couple explose, en fait. »
Plus d'une fois, oui.
Et ça nous... on a vraiment vécu ça de manière proche, quoi, autour de nous, et on avait envie de dire « Mais alors, si vous décidez de faire un enfant, ok, c'est joyeux, ça peut être léger, mais pensez-y quand même, parce qu'après,
faites attention à votre relation, quoi.
Ouais, la relation amoureuse, c'est aussi important, là. Enfin, c'est un peu le message
de cette saison 3, ouais, qui devrait arriver en 2022, hein, ça, de toute façon.
Mais il y a plein d'autres projets en cours. Il n'y a pas que celui-là, mais il y en a plein. Pas que des podcasts. Mais on pourrait dire, pour résumer, le gros événement, c'est qu'on on a choisi de s'appeler, de se trouver un nom. Ça s'appelle Les Compagnons de l'Imaginaire. Et en fait, pour vraiment porter tous les différents projets qu'on fait, à la fois des résidences d'artistes, où c'est vraiment des temps où on se retrouve avec d'autres amis créateurs et où on crée différentes choses. Voilà. Ça peut être des textes, ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique et de la photo. Voilà. Et aussi des moments où on propose des stages. Et l'idée, c'est que ce soit itinérant. Donc ça peut être à Bruxelles, mais ça peut être partout en Belgique et partout en France. Et l'idée, c'est de se déplacer où on a envie d'aller. On n'a pas envie de se contenter à un lieu fixe. Et donc ça, on le crée, c'est tout nouveau. Là, on commence petit à petit à développer ça. Et donc, c'est de continuer à faire des podcasts, mais pas que, quoi.
Les Compagnons de l'Imaginaire.
Exactement.
Alors le point ZAD, c'est une zone à défendre, un acronyme qui existe depuis que, autour de Nantes, ils avaient prévu, il y a à peu près 50 ans, de construire un deuxième aéroport qui finalement a été annulé. Et je vais relayer une communication du STEKI, donc qui est une ASBL. Si vous voulez les contacter, il faut écrire à je veux tout savoir sans point ni majuscule @lesteki.be. Steki, c'est enfin lesteki, c'est LESTEKI. Et dans le cadre du cycle sur l'abolition pénale organisé par le CLAC au Steki, on propose deux ateliers pour faire face au patriarcat sans devoir faire appel au système pénal. En mixité choisie, 100 mecs, 6 hétéros. Donc ce dimanche 27 février de 14h à 17h, atelier sur la gestion des agressions sexuelles au sein d'un groupe ou d'une communauté. L'idée de réfléchir ensemble aux actions, aux réactions collectives qui peuvent être adoptées dans ce genre de situation, dans une perspective anti-carcérale. Maximum 13 personnes, inscription par mail à lesteki@bruxelles.org. Et le samedi 5 mars, donc la semaine d'après, atelier d'autodéfense féministe, pratique verbale. L'autodéfense féministe permet de prévenir et de réagir face à des situations désagréables ou dangereuses. Elle permet de développer des ressources qui nous sont propres, de connaître nos limites et d'augmenter nos capacités d'action et notre confiance en soi. Dans cet atelier de 3 heures, nous encouragerons à pratiquer et à partager des outils d'autodéfense verbale nous permettant de nous défendre. Maximum 10 personnes, inscription par mail à melodie.autodéfense@melo.com. Les deux ateliers sont en prix libre, tu payes ce que tu veux. L'argent permettra de couvrir les frais de l'activité, impression, boisson, collation, etc. Mais il ne doit pas être un frein à votre participation. Donc ça change un peu de ce qu'on parlait, de l'ambiance et la légèreté, même si c'est pas léger en fait. Les relations, l'amour, l'épanouissement, c'est pas du tout léger. C'est pas un sujet grave.
Non. Mmh.
C'est ça qui fait que ça change un petit peu.
C'est pas un sujet grave, en même temps, c'est un sujet central. C'est bizarre. Hein. Mmh.
C'est en fait chercher des choses positives. Là, c'est éviter des choses négatives.
Exactement. Donc,
c'est pas les deux côtés de la même médaille, mais il faut de tout, quoi. Donc, il est 54. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette saison 2
Je crois qu'on a fait le tour. Je vais revenir sur ce que j'évoquais juste au début, qui est c'est l'occasion, encore une fois, pour ceux qui sont pas artistes, aussi de découvrir un peu ce que c'est que la vie d'artiste, d'essayer de prendre la mesure de, des fois, effectivement, cette complexité. Certains la mettent un peu plus dans leur vie, mais il y a quelque chose de différent au niveau des rythmes, au niveau des horaires, au niveau de la façon de vivre, qui est passionnant, mais qui peut effectivement rendre la chose un peu difficile. Et je crois que c'est une proposition qu'on fait aussi pour les non-artistes, découvrir un peu comment ça se passe pour ces gens-là, un peu bizarres. Voilà. Et de se voir en quoi on n'est pas si éloignés les uns des autres, quoi.
Merci.
Merci à vous, Radio Panique.
Vous êtes super.
Voilà. Super avec un K. Il reste encore une dernière musique que vous avez apportée dans une clé. Je pense que c'est The New York Rock Ensemble.
Oh oui.
On essaye ça ?
C'est un des meilleurs morceaux du monde.
Et après, on fera le programme de la journée, ce qui vous attend sur radiopanique.org et 105.4 à Bruxelles.
Slowly through the fields, slowly, slowly through the fields, and touch the leaves that touch the sky, just you and I, through fields of joy. All memories slowly fade away, slowly, slowly fade away. You hold my mind inside your hand, like drifting sand through fields of joy. The vast explosion that we hear, the blast of colors in the air, all see joy, through fields of joy.